Erosmose, érotisme, coquinerie, sexualité sur Osmose Radio.
Bonjour, bonsoir, chers petits fripons, soyez les bienvenus sur Osmose Radio. Vous êtes branchés en cette fin d'après-midi, ce vendredi, ensoleillé, puisque le printemps a enfin décidé à ramener le bout de son nez. Il a bien fait, le coquin. Et vous aussi, chers petits fripons, puisque vous êtes avec Stéphane, avec moi-même, vous êtes bien dans Erosmose, l'émission qui vous met en condition, qui vous met de bonne humeur, si j'ose dire, pour le week-end. Par contre, une émission qui est réservée à un public averti et aux oreilles pas trop trop chastes. Je préfère le dire d'entrée de jeu, puisque les propos vont être un petit peu sulfureux aujourd'hui encore dans cette émission qui est consacrée, comme à son habitude, à l'érotisme et à la sexualité. Alors moi-même Stéphane, donc dans cette émission, je vous ai parlé déjà à plusieurs reprises de thèmes un petit peu sulfureux, souvent liés à la littérature, puisque c'est un art en particulier qui se prête bien à ce genre de choses. Et en poésie française notamment, on a des trésors, des ressources insoupçonnées qui sont appréciées dans le monde entier d'ailleurs, au niveau de la poésie et de l'érotisme. Et par conséquent, eh bien c'est quelque chose qui, c'est un sujet qui invité régulièrement dans Erosmose depuis plusieurs années. Et aujourd'hui, dans cette année 2021, qui est un petit peu particulière, ben, des tas de titres différents, et notamment pour les commémorations, puisqu'il n'y a pas si longtemps, je vous rappelle qu'on se déchirait, enfin, nous, dans l'absolu, on s'en fout, mais les éditorialistes, les politiques et les médias, en règle générale, se déchiraient quant à savoir s'il valait mieux commémorer ou Napoléon ou la Commune. Les deux étaient dignes d'intérêt, mais bon, ça, manifestement, ça ne leur avait pas traversé l'esprit. Mais quelque chose de beaucoup plus discret, qui mérite d'être célébré, en tout cas souligné, sinon célébré cette année, eh bien c'était en 1821 la naissance de Charles Baudelaire. Donc c'est le bicentenaire en quelque sorte cette année de la naissance de cet homme-là, de ce grand poète français qui a illuminé d'une lumière sombre, je vous l'accorde, mais tout de même qui a illuminé la poésie française du 19e siècle. Et par conséquent, puisque il était question de un petit peu dans certaines revues de Charles Baudelaire récemment, rapport au fait qu'il est né en 1821 et que donc ça faisait 200 ans, et bien puisqu'il était question de Charles Baudelaire, je vais m'intéresser plus particulièrement dans cette émission à son œuvre majeure, bien qu'il en ait écrit d'autres, mais son œuvre majeure reste malgré tout Les Fleurs du Mal, ce recueil intemporel de poètes de poésie noire, de poésie liée à ce qu'on considère être le romantisme noir. Et par conséquent, et bien c'est aujourd'hui une invitation une petite balade littéraire et pour aborder différents thèmes, là encore liés à l'érotisme, puisque c'est le prisme d'Osmose, d'Erosmose et de cette émission que vous écoutez sur Osmose Radio. Par conséquent, pour cette invitation au voyage, en quelque sorte, pour reprendre un des poèmes du recueil, eh bien, je vous propose une interprétation mise en musique du texte de Baudelaire, L'invitation au voyage, par Christina Branco.
Mon enfant, ma sœur, songe à la douceur d'aller là-bas vivre ensemble, aimer à loisir, aimer et mourir au pays qui te ressemble. Les soleils mouillés de ce ciel brouillé, pour mon esprit ont les charmes si mystérieux de tes traîtres yeux, riant à travers leurs larmes. La tonne luxe, calme et volupté, d'aimables luisants polis par les ans, décoreraient notre chambre. Les plus rares fleurs mêlent leurs odeurs aux vagues senteurs de l'ombre. Les riches plafonds, les miroirs profonds, la splendeur orientale, tout y parlerait à la main secrète, sa douce langue natale. Là, tout n'est qu'autre beauté, luxe, calme et volupté. Papara. sur ses canaux dormir ses vaisseaux. Ton humeur est vagabonde, c'est pour assouvir ton moindre désir. Qu'il vienne du bout du monde, les soleils couchants revêtent les champs. Les canaux, la ville entière, bien saint et d'or, le monde s'endort. Luxe, calme et volupté. Là, tout n'est qu'ordre et beauté. Luxe, calme et volupté.
Là, tout n'est qu'ordre et beauté. Luxe, calme et volupté. Voilà. Rien que dans ces quelques vers, on peut ressentir toute la sensualité de l'écriture de Charles Baudelaire, qui notamment s'est exprimé et a rejailli, a éclaté et traverse les siècles pour nous venir encore aujourd'hui, malgré les péripéties dont je vous parlerai en cours d'émission. Nous éclabousse encore aujourd'hui, nous chatouille l'âme, si j'ose dire, avec cette versification et parfois qui les poèmes de Charles Baudelaire ont été très brillamment mis en musique, alors avec plus ou moins de bonheur, il faut le reconnaître. Mais tout de même, il y a eu des artistes qui ont su vraiment capter la musicalité de sa poésie, je le répète, pour l'accorder à leurs propres interprétations. Et c'est notamment cette belle réussite qu'a fait Cristina Branco, cette chanteuse portugaise, cette chanteuse de fado notamment, cette musique populaire portugaise qui, dans son album Tango Fado, il y a quelques années, avait donc repris ce poème, L'invitation au voyage, qu'on écoutait à l'instant. Chers amis, voilà. Donc vous l'aurez compris, hein, il va être question surtout aujourd'hui de Charles Baudelaire, notamment de son œuvre majeure, Les Fleurs du Mal. Alors Les Fleurs du Mal, un recueil de textes plus précisément qui nous a tous touchés à divers degrés. Soit qu'on les fait à l'école et que ça nous ait pris la tête, ça peut arriver. Je comprends tout à fait qu'on puisse être imperméable au style de Baudelaire, mais il y a aussi beaucoup de gens, et je crois que c'est une majorité, à tort ou à raison, beaucoup de gens qui ont été positivement impressionné par le style de Baudelaire. On n'aime pas tous les mêmes poèmes. Et par conséquent, pour préparer cette émission, je m'étais amusé à faire sur les réseaux sociaux un espèce de petit sondage en demandant à mes contacts divers et variés quel était le texte qui eux-mêmes les avait le plus touchés. Et donc, c'est ce qu'on va voir, les textes que eux m'ont cités dans une première partie d'émission. Dans une seconde partie d'émission, on verra un petit peu plus, de manière un petit peu plus historique et empirique, la genèse de ce texte de Charles Baudelaire, l'histoire, la place qu'il a eu dans l'histoire littéraire du 19e siècle. Et j'aurais aimé vous parler aussi des textes qui ont été censurés, parce que les Fleurs du Mal ont été une œuvre tellement sulfureuse au 19e siècle que la morale bourgeoise du Second Empire de Napoléon III lui est tombée dessus. Il y a eu un procès. Par conséquent, eh bien, l'œuvre, Les Fleurs du Mal, telles qu'ont pu les lire les gens pendant près d'un siècle, ça a été une œuvre amputée, censurée, par un tribunal en 1857, il me semble, voilà. Et par conséquent, je vous en parlerai, mais pas aujourd'hui, une prochaine fois. On y reviendra à l'occasion d'un prochain Erosmos. Sinon, l'émission fait 2 heures. Moi, j'adorerais ça. Hein. Plus c'est long, plus c'est bon, comme disait mon ex. Mais aujourd'hui, on va quand même se resserrer un petit peu, recentrer sur ces textes-là. Et par conséquent, il y a eu quelques suggestions qui ont été faites par des contacts sur Internet. Alors, et par conséquent, j'ai décidé de me focaliser sur les textes qui, eux, les ont touchés. J'ai été aussi obligé de respecter les thèmes des Rosmos, hein. Par conséquent, j'ai été obligé de faire des coupes malgré tout, et je m'excuse d'ores et déjà auprès de Jean-Luc, qui lui m'avait dit que l'Albatros était son poème préféré. Oui, vieux, je comprends, mais en même temps, dans Erosmos, on parle beaucoup du petit oiseau, mais un albatros, c'est un oiseau un petit peu trop grand pour le petit studio d'Osmos Radio. Voilà, toutes mes excuses. Mais par conséquent, il y a d'autres personnes qui m'ont cité des poèmes qui étaient plus raccord, en fait, avec les thèmes d'Erosmos, et par conséquent, je vais vous les lire aujourd'hui. De ma belle voix suave, cher petit fripon. Je sais que c'est pour ça que vous écoutez régulièrement l'émission. Oui, bon, ça va, j'aime me bercer d'illusions, pardonnez-moi. Donc, de ma belle voix suave, vous disais-je, je vais vous lire quelques poèmes, notamment celui qui a été proposé par Elsa, qui est en fait le poème d'introduction de l'œuvre, du livre, du recueil Les Fleurs du Mal. Un poème dans lequel Baudelaire, assez gonflé en quelque sorte, prend à partie le lecteur et le met face à ses contradictions. Et cette apostrophe, ce prologue, en fait, s'appelle tout simplement « Au lecteur ». La sottise, l'erreur, le péché, la lésine occupent nos esprits et travaillent nos corps. Et nous alimentons nos aimables remords comme les mendiants nourrissent leur vermine. Nos péchés sont têtus. Nos repentirs sont lâches. Nous nous faisons payer grassement nos aveux et nous rentrons gaiement dans le chemin bourbeux, croyant par de vils pleurs laver toutes nos tâches. Sur l'oreiller du mal, c'est Satan Trismégiste qui berce longuement notre esprit enchanté et le riche métal de notre volonté est tout vaporisé par ce savant chimiste. C'est le diable qui tient les fils qui nous remuent. Aux objets répugnants, nous trouvons des appâts. Chaque jour vers l'enfer, nous descendons d'un pas, sans horreur, à travers des ténèbres qui puent. Ainsi qu'un débauché, pauvre, qui baise et qui mange le sein martyrisé d'une antique catin, nous volons au passage un plaisir clandestin que nous pressons bien fort comme une vieille orange. Serré, fourmillant comme un million d'helminthes, dans nos cerveaux ribotent un peuple de démons, et quand nous respirons la mort dans nos poumons, descend fleuve invisible avec de sourdes plaintes. Si le viol, le poison, le poignard, l'incendie n'ont pas encore brodé de leurs plaisants desseins, le canevas banal de nos piteux destins, c'est que notre âme, hélas, n'est pas assez hardie. Mais parmi les chacals, les panthères, les lys, les singes, les scorpions, les vautours, les serpents, les monstres glapissants, hurlant, grognant, rampant, dans la ménagerie infâme de nos vices, il en est un plus laid, plus méchant, plus immonde. Quoiqu'il ne pousse de grands gestes ni grands cris, il ferait volontiers de la terre un débris et dans un bâillement avalerait le monde. C'est l'ennui. L'œil chargé d'un pleur involontaire, il rêve d'échafaud en fumant son hookah. Tu le connais, lecteur, ce monstre délicat. Hypocrite lecteur, mon semblable, mon frère. Voilà, donc dans ce texte, Baudelaire nous met un petit peu face à nos contradictions. Puisqu'on est lecteur, on est aussi en quelque sorte des voyeurs. Et c'est ainsi qu'il nous apostrophe dès le début de ce recueil, Les Fleurs du Mal. Et ça, donc, c'était Elsa qui l'avait signalé et qui m'avait donc demandé de lire ce, en tout cas, qui m'avait signalé cette introduction au recueil Les Fleurs du Mal au lecteur. Il en est d'autres. D'autres qui ont touché d'autres internautes de ma connaissance. Et c'était notamment Lydia qui avait, elle, préféré un poème largement plus connu que ce dernier, qui s'appelle « La chevelure », et qui aura là encore touché sans doute bien des gens, puisque la chevelure, les cheveux en règle générale chez les gens, c'est quelque chose de vraiment très sexy. Hein. C'est pas un poilu comme Maxime, le gentil régisseur d'Osmose Radio, qui me dira le contraire. Et par conséquent, ouais, la chevelure, bah, c'est quelque chose que pour ma part, en tout cas, je trouve très beau chez les hommes ou chez les femmes. Alors, il y en a à qui les cheveux courts vont mieux, hein, c'est pas la question. Mais tout de même, la chevelure, c'est quelque chose d'assez sexy qui a en soi une portée érotique auquel nos aïeux n'étaient déjà pas insensibles et certainement pas Charles Baudelaire qui, dans Les Fleurs du Mal, consacre un poème à ce sujet. Ô toison, moutonnant jusqu'à l'encolure, ô boucle, ô parfum chargé de nonchaloir, extase! Pour peupler ce soir l'alcôve obscure des souvenirs dormant dans cette chevelure, je la veux agiter dans l'air comme un mouchoir. La langoureuse Asie et la brûlante Afrique, tout un monde lointain, absent, presque défunt, vit dans tes profondeurs, forêt aromatique. Comme d'autres esprits voguent sur la musique, le mien, ô mon amour, nage sur ton parfum. J'irai là-bas où l'arbre et l'homme, plein de sève, se pâment longuement sous l'ardeur des climats. Forte tresse, soyez la houle qui m'enlève. Tu contiens une ébène, un éblouissant rêve de voiles, de rameurs, de flammes et de mâts. Un pont retentissant où mon âme peut boire à grands flots le parfum, le son et la couleur, où les vaisseaux glissants dans l'or et dans la moire ouvrent leurs vastes bras pour embrasser la gloire d'un ciel pur où frémit l'éternelle chaleur. Je plongerai ma tête amoureuse d'ivresse dans ce noir océan où l'autre est enfermé, et mon esprit subtil que le roulis caresse saura vous retrouver, ô féconde paresse, infini bercement de loisirs embaumés. Cheveux bleus, pavillons de ténèbres tendus, vous me rendez l'azur du ciel immense et rond. Sur les bords duvetés de vos mèches tordues, je m'enivre ardemment des senteurs confondues, de l'huile de coco, du musc et du goudron. Longtemps, toujours, ma main dans ta crinière lourde sèmera le rubis, la perle et le saphir, afin qu'à mon désir tu ne sois jamais sourde. N'es-tu pas l'oasis où je rêve et la gourde où je eus malontré le vin du souvenir? C'est une question. C'était une eau propre en tout cas. À l'instant, c'était enfin une eau propre gentille. À l'instant, c'était donc ce poème, La Chevelure, un des poèmes les plus connus sans doute du recueil Les Fleurs du Mal, qui aura influencé beaucoup de gens, ne serait-ce que par l'exotisme, quelque chose qui était relativement nouveau d'ailleurs au 19e siècle, l'exotisme qui sous-tend le goût de l'exotisme qui sous-tend un petit peu ce poème. Qui nous parle d'horizons lointains en Asie, en Afrique ou que sais-je, ça a peut-être été écrit à la période où Baudelaire lui-même avait pour compagne une Antillaise, ce qui était d'ailleurs assez original dans la société de l'époque et assez gonflé, peut-être qu'il y avait une part de provocation dans son démarche. Allez savoir, toujours est-il qu'on est sûr qu'il a été vraiment amoureux de cette femme-là, et ça se ressent un petit peu dans ce dernier poème. Voilà, chers amis, quelque chose qui, des cheveux qui dansent en fait sur les épaules des gens qui passent, c'est quelque chose d'assez hypnotisant, d'assez sensuel en soi, et c'est quelque chose qu'on aime, un spectacle qu'on aime parfois à contempler. Et je disais, oui, ces longs cheveux qui non seulement dégoulinent, découlent des épaules, mais qui peuvent parfois aller jusqu'en dans le creux des reins, eh bien on croirait parfois de longs serpents qui dansent sur les épaules de nos contemporains ou de nos contemporaines. Eh bien c'est justement avec le serpent qui danse que je vous propose de continuer une mise en musique par Serge Gainsbourg.
Que j'aime voir, chère indolente, de ton corps si beau, comme une étoffe vacillante miroiter la peau. Sur ta chevelure profonde, aux âcres parfums, mer odorante et vagabonde, aux flots bleus et bruns, comme un navire qui s'éveille au vent du matin. Mon âme rêveuse appareille pour un ciel lointain. Tes yeux où rien ne se révèle de doux ni d'amer sont de bijoux froids où se mêle l'or avec le fer. À te voir marcher en cadence belle d'abandon, on dirait un serpent qui danse au bout d'un bâton. Sous le fardeau de ta paresse, ta tête d'enfant se balance avec la mollesse d'un jeune éléphant. Et ton corps se penche et s'allonge comme un fin vaisseau qui roule bord sur bord et plonge ses vergues dans l'eau. Comme un flot grossi par la fonte des glaciers grondants, quand l'eau de ta bouche remonte au bord de tes dents, je crois boire un vin de bohème amer et vainqueur, un ciel liquide qui parsème d'étoiles mon cœur.
Serge Gainsbourg avec une chanson qui s'appelle tout simplement Baudelaire, mais dans lequel vous aurez reconnu bien entendu Le Serpent qui danse, là encore un des poèmes majeurs, les plus musicaux et en même temps les plus sensuels de Charles Baudelaire, qui l'a encore évoqué la sensualité de la marche de sa compagne, je répète, cette Antillaise avec laquelle qu'il avait été très amoureux. Je crois deviner en tout cas que c'est elle dont il s'agit dans cette chanson qu'on vient d'écouter. Et là encore, Serge Gainsbourg a vraiment su ressentir et mettre en lumière la musicalité du texte. Un texte qui, pour le coup, n'est pas de lui, mais d'un auteur qui, comme beaucoup d'artistes contemporains, aura été influencé par cet homme-là, Charles Baudelaire. Un autre qui aura apprécié Charles Baudelaire, c'est le directeur de programme d'Osmose Radio, Serge, qui m'avait répondu, moi, quelle est mon œuvre préférée des Fleurs du Mal, c'est tout simplement le poème Correspondance, parce qu'il me correspond. Ben écoute, je veux bien te croire, cher confrère, si j'ose dire. Et puis les correspondances, eh bien c'est ce qui aussi sied est aux amoureux, n'est-ce pas? Puisque ils peuvent pas s'empêcher de s'envoyer des petits billets doux, des romances, des lettres ou des SMS ou des stories Instagram pour revenir à l'époque contemporaine. Mais le fait est que c'est toujours dans ces échanges que les amoureux, depuis fort longtemps, aiment à communiquer et à s'épancher dans les sentiments qui les unissent. Et par conséquent, ben, les correspondances, c'est aussi ça. Mais pourquoi est-ce qu'ils s'amusent à correspondre ces braves gens-là, ces amoureux, en lettres, en SMS ou que sais-je? Eh bien, c'est tout simplement parce que eux-mêmes se correspondent dans toute l'ambiguïté que revêt ce terme de cette langue française qui est parfois riche d'ambiguïté que savent exploiter les poètes. Et ben, c'était notamment le cas de Charles Baudelaire. Et par conséquent, je vous propose tout de suite de lire Correspondance. La nature est un temple où de vivants piliers laissent parfois sortir de confuses paroles. L'homme y passe à travers des forêts de symboles qu'il observe avec des regards familiers. Comme de longs échos qui de loin se confondent dans une ténébreuse et profonde unité, vaste comme la nuit et comme la clarté, les parfums, les couleurs et les sons se répondent. Il est des parfums frais comme des chairs d'enfants, doux comme les hauts bois, verts comme les prairies, et d'autres, corrompus, riches et triomphants. Ayant l'expansion des choses infinies, comme l'ambre, le musc, le bon joint et l'encens, qui chantent les transports de l'esprit et des sens. Voilà, donc les correspondances, c'est un petit peu aussi ça, hein, c'est drôle d'accointances en quelque sorte qui nous apparaissent parfois même dans la nature, y compris dans la nature des gens qui nous correspondent quand on les rencontre. Voilà, et ça c'était un texte qui m'a été suggéré par Serge. Serge est un confrère d'Osmose Radio, hein, là je faillote un peu, hein, je reconnais, puisque c'est le directeur des programmes, hein, c'est le grand schtroumpf en quelque sorte d'Osmose Radio. Et une autre collègue d'Osmose Radio, bah, c'est Laurence, qui elle m'a dit que son texte préféré de ce recueil, Les Fleurs du Mal, c'était le poème À une passante. Et elle m'a ajouté, je ne saurais dire pourquoi. Moi, je saurais dire pourquoi, cher ami, mais j'y reviendrai plus tard. Et par conséquent, À une passante, ben, c'est un autre poème de Charles Baudelaire qui, là encore, réveille des choses en nous qui, pour peu qu'on ait vécu un petit peu, bien entendu, mais même les plus jeunes s'y retrouvent parfois, eh bien, c'est un poème qui réveille en nous des occasions manquées, ce que Freud, beaucoup plus tard, appellera les actes manqués, qui réveille en nous des actes manqués, des rencontres qu'on aurait pu faire et puis finalement, ça ne s'est jamais fait. Et on en garde parfois, sinon un remords, au moins quelques regrets de n'avoir pas su se attraper l'occasion qui se présentait. Et c'est notamment l'objet de ce poème que je vous propose tout de suite, À une passante. La rue assourdissante autour de moi hurlait. Longue, mince, en grand deuil, douleur majestueuse, une femme passa d'une main fastueuse, soulevant, balançant le feston et l'ourlet. Agile et noble, avec sa jambe de statue, moi je buvais, crispé comme un extravagant, dans son œil, ciel livide où germe l'ouragan, la douceur qui fascine et le plaisir qui tue. Un éclair, puis la nuit. Fugitive beauté, dont le regard m'a fait soudainement renaître, ne te verrai-je plus que dans l'éternité? Ailleurs, bien loin d'ici, trop tard, jamais peut-être, car j'ignore où tu fuis, tu ne sais où je vais. Ô toi que j'eusse aimé, ô toi qui le savais. Ô toi que j'eusse aimé, ô toi qui le savais. Alors ça, c'est un vers de conclusion, un vers de conclusion pour un homme qui n'a jamais pu conclure, en quelque sorte. Un vers de conclusion à ce poème qui m'a toujours intrigué et qu'il m'est arrivé de ressentir à moi aussi, comme à beaucoup d'entre vous, mais j'en suis persuadé. Et pour ma part, eh bien, je crois que c'est un petit peu cette impression fugace d'avoir été le passant ou la passante de quelqu'un d'autre, croisé, qui sait, à un bal, dans la rue, à une occasion quelconque, et que finalement ben, le calendrier n'a pas su s'adapter un petit peu à cette rencontre qui aurait pu se faire et qui ne s'est jamais faite. Et pour une fois, eh bien, je vais jouer un petit peu à 36-15, je raconte ma vie. Donc ceux que ça emmerde, vous pouvez faire une pause et revenir tout à l'heure. Et pourquoi je vous dis que c'est particulièrement touchant cette histoire? Eh bien, c'est parce que moi, ça m'évoque un souvenir précis. Vous avez peut-être quelque chose d'équivalent dans vos mémoires à vous, chers amis, j'en suis sûr. Eh bien, pour ma part, c'était en août 2015. Dans les premiers jours de 2015, j'étais avec un collègue sur la place du Palais des Papes. On descendait vers la place de l'Horloge. Et là, sur ces pavés un peu mesquins parfois, parce qu'il faut faire attention aux marches, il y avait deux dames qui discutaient, et je ne sais pas pourquoi mon œil a été attiré par l'une. Je ne saurais pas pourquoi, je ne le saurais jamais d'ailleurs. Attiré l'une d'entre elles, et là, ça a été, vous savez, ces impressions étranges. On a l'impression que le temps est suspendu, alors que pour les autres, il s'écoule exactement de la même façon. Mais là, il y a eu comme une absence, le temps n'existait plus, et je suis tombé sur une femme que j'ai trouvée absolument superbe. Elle avait des yeux noisettes, genre on pourrait les inclure dans la recette du Nutella. Elle avait une peau dorée comme un pain au chocolat, j'aurais l'aurais bouffé tout de suite. Elle avait des lèvres magnifiques avec une bouche avec laquelle on aurait envie de faire des tas de baisers langoureux et sans doute bien d'autres choses encore, mais je ne peux pas en dire trop. Elle avait des rondeurs, des jolies rondeurs qui étaient dissimulées sous une robe droite noire qui lui allait très bien, des souliers à talons, et elle discutait avec une dame et on a échangé un regard. Je lui ai souri, elle m'a souri, et j'ai, en continuant à avancer avec mon collègue qui lui ne s'était aperçu de rien, eh bien j'ai tourné la tête tant que j'ai pu jusqu'à ce que ma nuque ne puisse plus suivre, et par conséquent ben j'ai continué et elle est sortie de mon champ de vision. Quelques rues plus loin, on devait se séparer avec ce collègue, j'ai pris congé de lui donc, et je suis remonté dardard vers la place du Palais des Papes, et hélas, devant l'hôtel des Monnaies, elle avait disparu. Et j'ai fait toutes les rues adjacentes, j'ai marché pendant une ou deux heures et rien, je ne l'ai pas revue. Les soirs suivants, j'ai continué à marcher un peu dans les zones touristiques parce que je supposais que c'était une touriste elle-même. Je ne l'ai jamais revue, voilà. Et c'est peut-être aussi bien comme ça, je sais pas, mais c'est toujours malgré tout avec une pointe de regret que je ne peux pas m'empêcher de repenser à ce souvenir que j'évoquais avec vous, chers amis, à l'instant, voilà. Et par conséquent, bah, c'était parfois, quand je relis ce poème de Charles Baudelaire à une passante, eh bien je ne peux pas m'empêcher de repenser à cette anecdote personnelle, voilà. Et un autre qui aura sans doute vécu exactement la même chose, mais à une autre époque, eh bien c'était le poète Antoine Paul qui avait lui aussi écrit un poème qui s'appelle Les Passants, tout simplement, et qui là encore a été magnifiquement mis en musique, ce coup-ci par Georges Brassens.
Je veux dédier ce poème à toutes les femmes qu'on aime pendant quelques instants secret, à celle qu'on connaît à peine, qu'un destin différent entraîne et qu'on ne retrouve jamais, à celle qu'on voit apparaître une seconde à sa fenêtre et qui preste s'évanouit, mais dont la svelte silhouette est si gracieuse et fluette qu'on en demeure épanoui. À la compagne de voyage dont les yeux charmants paysages font paraître court le chemin, qu'on est seul peut-être à comprendre et qu'on laisse pourtant descendre sans avoir effleuré la main. À celles qui sont déjà prises et qui vivant des heures grises près d'un être trop différent vous ont inutile folie laissé voir la mélancolie d'un avenir désespérant. Chères images aperçues, espérance d'un jour déçu, vous serez dans l'oubli demain. le bonheur survienne, il est rare qu'on se souvienne des épisodes du chemin. Mais si l'on a manqué sa vie, on songe avec un peu d'envie à tous ces bonheurs entrevus, aux baisers qu'on n'osa pas prendre, aux cœurs qui doivent vous attendre, aux yeux qu'on n'a jamais revus. Alors, au soir de lassitude, tout en peuplant sa solitude, des fantômes du souvenir, on pleure les lèvres absentes de toutes ces belles passantes que l'on n'a pas su retenir.
Ces belles passantes que l'on n'a pas su retenir, pour moi, ça fait vraiment écho à « Ô toi que j'eusse aimé, ô toi qui le savais » de Charles Baudelaire qu'on écoutait tout à l'heure. Et là, c'était un poème mis en musique par Georges Brassens, un poème qui, pour le coup, n'était pas de Charles Baudelaire, mais d'Antoine Paul, et un poème qui, pour moi, fait vraiment écho au poème de Baudelaire, à une passante. Alors, je pense que c'est Antoine Paul qui s'est inspiré de Baudelaire et pas l'inverse, évidemment, pour des raisons chronologiques évidentes. Mais du coup, pour moi, c'est vraiment les deux facettes d'un même sentiment qu'on est nombreux sans doute à avoir ressenti. Voilà. Et par conséquent, c'était un petit peu un des aspects des poèmes qui ont touché les gens auxquels j'ai posé la question. Quel poème de Baudelaire dans Les Fleurs du Mal préférez-vous? Et voilà. Donc ça, c'était Laurence qui m'avait dit qu'elle aimait ce poème-là à une passante qu'on lisait tout à l'heure. Et évidemment, dans Les Fleurs du Mal, il y a différents aspects, les aspects un petit peu sulfureux, érotiques, dont certains ont fait l'objet d'un procès au 19e siècle, comme je vous le disais tout à l'heure. Et on retrouve aussi certains aspects qui ont façonné un petit peu le romantisme noir tel qu'on le perçoit encore aujourd'hui. Alors, il n'y avait pas que Baudelaire, il y avait aussi Gérard de Nerval et d'autres, Alfred de Vigny et d'autres. Mais on retrouve aussi les thèmes du fantastique, les créatures un petit peu démoniaques, les thèmes de la mort et de la pourriture qui s'invitent dans les pages des Fleurs du Mal. C'est aussi un des aspects qui, d'ailleurs, met parfois certaines personnes mal à l'aise et ce qui les rend imperméables, hein, cet attrait de la mort et de la corruption, les met un petit peu mal à l'aise par rapport à la poésie de Baudelaire, quand bien leur fasse. Mais toujours est-il qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens qui ont été fascinés par cette manière de décrire ainsi la décadence de notre condition, tout simplement. Et c'était le cas de Florent, qui lui m'a dit que son poème préféré, c'était tout simplement Une charogne, un des poèmes de Baudelaire dans Les Fleurs du Mal, que je vous propose d'écouter tout de suite. Rappelez-vous l'objet que nous vîmes, mon âme, ce beau matin d'été si doux. Au détour d'un sentier, une charogne infâme sur un lit semé de cailloux. Les jambes en l'air, comme une femme lubrique, brûlante et suant les poisons, ouvrant d'une façon nonchalante et cynique son ventre plein d'exhalaisons. Le soleil rayonnait sur cette pourriture, comme afin de la cuire à point, et de rendre au centuple à la grande nature tout ce qu'ensemble elle avait joint. Et le ciel regardait la carcasse superbe, comme une fleur s'épanouir. La puanteur était si forte que sur l'herbe, vous crûtes vous évanouir. Les mouches bourdonnaient sur ce ventre putride, d'où sortaient de noirs bataillons de larves, qui coulaient comme un épais liquide le long de ces vivantes baillons. Tout cela descendait, montait comme une vague, ou s'élançait en pétillant. On eût dit que le corps enflé d'un souffle vague vivait en se multipliant. Et ce monde rendait une étrange musique, comme l'eau courante et le vent, ou le grain qu'un vaneur d'un mouvement rythmique agite et tourne dans son vent. Les formes s'effaçaient et n'étaient plus qu'un rêve, une ébauche lente à venir, sur la toile oubliée, et que l'artiste achève seulement par le souvenir. Derrière les rochers, une chienne inquiète nous regardait d'un œil fâché, épiant le moment de reprendre au squelette le morceau qu'elle avait lâché. Et pourtant, vous serez semblable à cette ordure, à cette horrible infection. Étoile de mes yeux, soleil de ma nature, vous, mon ange et ma passion. Oui, telle que vous serez, ô la reine des grâces, après les derniers sacrements, quand vous irez sous l'herbe et les floraisons grasses, moisir parmi les ossements. Alors, ô ma beauté, dites à la vermine qui vous mangera de baisers que j'ai gardé la forme et l'essence divine de mes amours décomposés. Baudelaire n'avait pas été le seul à s'intéresser à ce thème-là. Voltaire, un siècle avant lui, en avait fait autant, mais dans une verve un petit peu moins macabre, il faut en convenir. Voilà. Et ça, c'est Florent, hein, qui lui-même est prof d'occitan, mais qui ne rechigne pas à s'intéresser à la littérature française aussi, qui me l'avait signalé, un poème que pour ma part, j'avais découvert durant mon enfance grâce à Enki Bilal. Enki Bilal qui, dans son recueil, dans son œuvre de bande dessinée, La Foire aux Immortels, avait écrit des passages, fait réciter des passages par son anti-héros Nico Paul, des passages des Fleurs du Mal de Baudelaire, parce que lui-même, Enki Bilal, qui était d'origine serbe, quand il est arrivé en France, ça a été un de ses premiers contacts avec la langue française, la poésie de Baudelaire. Et tout de suite, il est tombé amoureux, en quelque sorte, de cette poésie charnelle, de ces vers sensuels qui parcouraient les pages et que lui-même déchiffrait dès son enfance. Et c'est ainsi que, comme ça, il est tombé amoureux, non seulement de la littérature française, mais de la culture de notre beau pays, pour une fois, j'ai envie de dire. Voilà, chers amis. Et je vous disais, ouais, il n'y a pas que des thèmes proprement érotiques dans Les Fleurs du Mal, bien entendu. Il y a aussi des thèmes liés au fantastique, qui n'étaient pas sans évoquer d'ailleurs ce dernier poème, Une charogne. Il y a des thèmes aussi liés au paradis artificiel, puisque les drogues, enfin, vous savez que les auteurs du 19e siècle avaient testé des drogues qui n'avaient pas vraiment lieu d'être sous nos latitudes, dans les périodes qui les précédaient. Et par conséquent, ils ont découvert le hashish, par exemple, ou une drogue qu'on connaît depuis Mathusalem, c'est le vin. Il y a des pages notamment consacrées au vin et à ce qu'il peut évoquer en nous de mélancolie ou d'horreur dans les pages des Fleurs du Mal. Et notamment, là encore, ça a été mis en musique et je vous propose tout de suite d'écouter un poème, une mise en musique de Bertrand Louis avec le vin des amants.
Aujourd'hui l'espace est splendide, sans mort, sans éperon, sans bride. Partons à cheval sur le vin, pour un ciel féerique et divin. Deux anges que torture une implacable calenture dans le bleu cristal du matin. Suivons le mirage lointain. Mollement balancé sur l'aile du tourbillon intelligent, dans un délire parallèle, ma sœur côte à côte nageant. Nous fuirons sans repos ni trêve, de mes rêves.
Sanglot, je l'entends bien qui coule avec un long. je suis mort, c'est ça? Et vous? Je vous connais, vous êtes Horus Tyrannopolis, le dieu du ciel.
Je suis flatté, Nicopole, misérable humain.
Anubis ne doit pas être loin, le gardien des tombes, le dieu des morts.
Qui sait si le jour où nous franchirons le Styx nous-mêmes, nous n'aurons pas des souvenirs littéraires qui viendront nous assaillir, soit que ce soit nos lectures personnelles, soit des trucs qu'on a fait au lycée, soit des textes qui ont eu un écho particulier dans notre vie, et que c'est ça qui va nous assaillir le cerveau alors que on se préparera à faire le grand saut vers Saint-Pierre. Allez donc savoir. Toujours est-il que là, on écoutait un extrait d'un film qui s'appelait Immortel Ad Vitam, qui était en fait l'adaptation au cinéma de la bande dessinée d'Enki Bilal, La aux immortels. Et c'était Alcide Nicopole, ce héros un petit peu paumé, cet anti-héros, j'ai envie de dire, qui, alors qu'il vient de sortir de congélation carbonique, enfin de cryonisation, les premiers trucs qui lui reviennent à l'esprit, ben en fait, c'est des poèmes, et en l'occurrence les poèmes de Baudelaire. Voilà. Donc c'était assez insolite dans cette bande dessinée d'ailleurs, cette histoire qu'il est tout autant. Et juste avant ça, ben c'était une mise en musique d'un autre poème de Baudelaire qui s'appelait Le vin des amants, puisqu'il y a plusieurs passages consacrés au vin intitulé Le vin dans les fleurs du mal. Et à l'instant, c'était Bertrand Louis qui mettait en musique ce poème-là en particulier. Voilà. Chers amis, soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. Chers petits fripons, vous êtes bien toujours sur Osmose Radio. Vous êtes bien avec Stéphane dans Erosmose. Et aujourd'hui, on se consacre un petit peu plus particulièrement à la poésie dans cette émission. Et notamment, aux Fleurs du Mal, qui est l'œuvre majeure de Charles Baudelaire. Charles Baudelaire qui était né en 1821. Et cette année, discrètement, c'est le bicentenaire de sa naissance. Et c'est l'occasion ou jamais de parler de l'œuvre de cet homme-là. Cet homme comme tous les grands artistes, avaient aussi une face sombre. Il était capable d'être assez con, d'être assez mesquin, d'être assez pointilleux. Mais pour autant, il a fait quand même des œuvres et des textes mémorables et qui, pour certains, nous auront influencés à divers degrés. Et par conséquent, dans cette première partie d'émission, je tenais à vous parler des textes qui ont touché des gens autour de moi, des gens avec lesquels je suis en contact sur Internet et qui m'auront tous donné des réponses différentes et des raisons différentes d'aimer ces textes en particulier qu'on a écoutés ensemble en première partie d'émission. Et en seconde partie d'émission, tout à l'heure, je viendrai un petit peu, à gros traits bien entendu, sur la genèse et l'histoire, la place que prend dans l'histoire ce livre en particulier, Les Fleurs du Mal. Mais au mi-temps de l'émission, j'ai envie de parler d'un poème qui m'a touché, moi, non que ce soit mon préféré, mais c'est un poème qui m'intrigue parce qu'il correspond à un vieux fantasme masculin, à mon avis, un fantasme qu'on peut faire remonter jusqu'à la préhistoire, puisque nos ancêtres Cro-Magnon, par exemple, sculptaient dans des cailloux ou dans de l'ivoire, sculptaient des Vénus, notamment ce qu'on a appelé beaucoup plus tard, ce que les archéologues ont appelé des Vénus, des femmes avec des formes particulièrement opulentes qui soulignaient en fait, leur capacité de fécondité, puisque c'était ça qui devait soucier nos ancêtres à l'époque. Et si depuis on a évolué, on a quand même toujours ce fantasme, j'ai envie de dire presque primitif, des femmes opulentes, des femmes qui sont capables de nous dominer. Elles le font, elles ne le font pas, mais elles peuvent le faire. Et ça, c'est l'antithèse de la femme soumise que beaucoup d'hommes, que beaucoup de machos de par le monde voudraient avoir à leur côté. Mais en même temps, on peut aller jusqu'à Lilith, hein, si on veut aller aussi loin dans les figures bibliques ou dans la psychologie des profondeurs, c'est comme on veut. Mais toujours est-il qu'il y a toujours cette idée de femme ou de déesse qui est capable d'en imposer, ne serait-ce que par son physique. Et c'est notamment le cas, enfin en tout cas c'est comme ça que moi je l'ai ressenti, c'est notamment le cas de Baudelaire qui avait consacré un poème à ces femmes géantes, qui sont réelles ou fantasmées bien entendu, à ces femmes géantes qu'on aime, auprès desquelles on aime s'imaginer à reposer. Baudelaire, la géante. Du temps que la nature, en sa verve puissante, concevait chaque jour des enfants monstrueux, j'eusse aimé vivre auprès d'une jeune géante, comme au pied d'une reine un chat voluptueux. J'eusse aimé voir son corps fleurir avec son âme et grandir librement dans ses terribles jeux. Deviner si son cœur couve une sombre flamme aux humides brouillards qui nagent dans ses yeux. Parcourir à loisir ses magnifiques formes, ramper sur le versant de ses genoux énormes et parfois en été, quand les soleils malsains, lasse, la font s'étendre à travers la campagne, dormir nonchalamment à l'ombre de ses seins, comme un hameau paisible au pied d'une montagne. Alors ça, vous voyez, sans forcément aller dans le délire, je veux coucher avec maman. Hein, on n'est pas chez Freud ici, mais tout de même, ce fantasme de la femme opulente, non seulement opulente et avec des formes qui correspondent à des formes voluptueuses qui correspondent à l'idée qu'on se fait d'un corps lié à la fécondité, mais c'est aussi cette envie parfois un petit peu étrange d'être dominée par ce qu'on appelait encore le sexe faible. Et par conséquent, c'est quelque chose qu'on voit régulièrement revenir en art, pas forcément en poésie d'ailleurs. Je vous parlais de l'histoire biblique et de la figure de Lilith, par exemple, qui se mettait sur Adam lors de leurs ébats, hein, ce qui était très très mal vu. On peut aussi aller dans les arts graphiques, dans les arts picturaux. Je pense notamment à Botero, qui dessinait des silhouettes d'hommes et de femmes, d'ailleurs pas seulement, bien en chair, hein, bien potelées. Je pense aussi à tous les tableaux de la Renaissance, Rubens, Rembrandt. Mais bon, là c'est moins prononcé, ça correspond plus à un goût de l'époque. On peut, si vous allez dans le jardin des Tuileries, vous pouvez aussi voir les statues d'Aristide Maillol qui en imposent d'autant plus qu'elles sont sur un piédestal. Et là encore, hein, ce sont des corps féminins bien charpentés. Et pour ma part, vous me pardonnerez, on a les références intellectuelles qu'on peut. Pour ma part, je repense souvent à Robert Crumb, un auteur de bande dessinée, là encore, qui avait ce fantasme totalement assumé des femmes bien construites avec un gros cul, des jambes interminables, des seins et auprès desquels son corps à lui contrastait son corps de petit maigrichon, de petit avorton avec une grosse bite néanmoins, tel qu'il aimait lui-même se représenter en contraste avec ces femmes qui correspondaient à ces fantasmes. Voilà. Donc c'est quelque chose d'assez ancien. Et qu'on retrouve encore de façon contemporaine dans ces arts que je viens d'évoquer et, pour en revenir à la littérature, aussi dans certains auteurs contemporains, notamment François Cavanna, qui, dans un livre qui s'appelait « Les yeux plus grands que le ventre », avait écrit un passage qui m'évoque exactement la même chose, à tort ou à raison, hein, qui m'évoque un petit peu cette idée qu'on pouvait ressentir dans ce poème « La géante » de Charles Baudelaire. Pour François Cavanna, c'était plutôt les femmes qui étaient au mi-temps de leur vie, en quelque sorte, les femmes de 35 ans. Et pour lui, 35 ans, c'était l'âge des ogresses. 35 ans, l'âge des ogresses qui rôdent, claquant des mâchoires, l'âge des mantes religieuses. Les redoutables divorcés de 35 ans, petit homme triste, qui rêve d'un gros doux cul pour y poser ta tête, petit homme triste, si tu en vois une à l'horizon, fuis à toutes jambes, fuis! Sur leurs hauts talons pointus, belles, mille fois plus belles qu'à 18 ans, et tendres, et juteuses, et malheureuses, et tellement, tellement, tellement compréhensives. Elles t'auront jusqu'au trognon, petit homme triste, jusqu'au trognon. Les refaiseuses de vie, les redémarreuses à zéro, mais cette fois c'est la bonne. Elles sont sans pitié, petit homme, car il y va de leur peau. Fuis, ou sois sans pitié toi-même, si tu le peux. Mais si tu ne le peux pas, petit homme triste, tu ne le peux pas. Alors fuis, cours. Vite et loin, sans te retourner. Là, c'est décrit de façon un petit peu plus mélancolique, mais c'est toujours cette même idée. Ces femmes fortes qui mènent leur vie, qui mènent leur barque, et qui parfois sont impitoyables, et qui ont les capacités de l'être par rapport à la force qu'elles ont en elles, et qui parfois se voient aussi, se perçoivent par rapport à leur physique fantasmée ou réelle, peu importe, qui est décrit et qui est exprimé dans les arts, dans la peinture, dans la sculpture, dans la poésie, comme on a pu le voir avec Charles Baudelaire tout à l'heure, et une autre dame qui en impose, et par son talent, et par sa silhouette aussi, c'est Juliette Noureddine qui, elle, dans un texte original, un texte de sa composition, nous parlait aussi des géantes.
Détourne, gentil berger, tes yeux du vallon noir, où je me tiens vautré, un jeune saule aux lèvres, rentrant ta bergerie, tes moutons et tes chèvres. Je suis nu et j'ai soif, il fait trop chaud ce soir. D'autres qui viendront quand s'allumera la lune. Explorer les taillis de mes quatre toisons feront mon escalade comme de jeunes oiseaux. Glissant entre mes seins, si contre de dunes, nul besoin de guitare, de bouquet ni de gants. Pour obtenir de moi des voluptés confuses. Je suis ouverte à tous, il suffit que l'on use de mon ventre comme d'un luxurieux toboggan. Ben oui, quoi, je suis la géante du vallon noir, celle qui vous affole et qui hante dans les chaumières et les manoirs. Vos libidos ahurissantes. Ben oui, quoi, je suis la géante. Si je les ai tous eus, je n'en regrette qu'un, qui n'était brute épaisse, ni seigneur mirifique, mais simple entiché d'art cinématographique. Oh, combien je l'aimais, le cher petit rouquin. Je nous revois encore au sommet de la tour, notre ultime refuge à l'abri des humains. Il était étendu dans le creux de ma main, et je le protégeais du lourd vol des vautours. Il m'avait proposé de me faire un marmot à l'issue d'une nuit choisie pour la plus longue. Il me baisait partout et m'appelait Queen Kong. Hélas, il est tombé en répétant ce mot. Ben oui, quoi, je suis la géante du vallon noir, celle qui vous affole et qui hante dans les chaumières et les manoirs, vos libidos ahurissantes. Ben oui, quoi, je suis la géante. Vous ne supportez pas les trop grands sentiments, à six égalités, mais non point Polyphème. Et puisque vous savez comme il faut que l'on aime, venez vous engloutir, minuscules amants. Descendez en mes gouffres, mes avennes, mes abysses, aux spéléos d'amour, aux désirs impudents, ignorant que je puis d'un simple coup de dent casser le fil vous liant comme sont liés les saucisses. Jamais ne reverrai le joli vallon noir, ni ses taillis ombreux striés du sceau des lièvres, où je me tiens vautré pour assouvir vos fièvres. Hâte ton pas, berger, il fait trop chaud ce soir. Ben oui, quoi, je suis la géante, celle qui vous affole et qui hante vos libidos ahurissantes.
Ben oui, quoi, je suis la géante. Ben oui, quoi, je suis la géante.
Juliette, quand on écoute ça, on a toujours envie d'être un Roméo en quelque sorte. Et là, elle nous interprétait la géante qui faisait écho au poème de Charles Baudelaire que je vous récitais juste avant. Voilà, chers amis, on arrive dans la dernière ligne droite de cette émission et je vous dois tout de même quelques mots sur l'élaboration de cette œuvre, Les Fleurs du Mal, dont j'ai fait le sujet principal aujourd'hui dans cette émission. Une œuvre, en fait, dont on connaît des poèmes épars, qu'on a parfois, dont on a parfois une édition chez soi, mais est-ce la bonne édition? Parce qu'il y en a eu plusieurs. Et en fait, c'est une œuvre dont la genèse a été un petit peu bordélique, passez-moi l'expression, parce que déjà, la vie de Charles Baudelaire lui-même était compliquée. Hein. Il est né en 1821, donc à l'époque de l'élaboration des Fleurs du Mal, dans les années 1850. Eh bien, c'était un homme sur la fin de sa vingtaine, le début de sa trentaine, qui accumulait les déboires déjà avec sa famille, parce qu'il était un peu trop prodigue, il avait été mis sous tutelle, il me semble, et aussi les expériences amoureuses concluantes ou décevantes, et ce qui pouvait parfois le pousser à la mélancolie. Et puis, il était aussi dans le milieu littéraire et culturel de son époque, et ce qui n'allait pas sans parfois sans quelques passages au bordel, sans quelques passages dans les cabarets, les tavernes, etc., etc. Enfin, là, vous voyez un homme à la vie dissolue, en quelque sorte. C'était pas le pire des hommes dissolus de son époque, hein, loin s'en faut, mais pour autant, c'est quelque chose qui imprègne vraiment et à divers degrés son œuvre, et notamment celle-ci, Les Fleurs du Mal. Alors déjà, Les Fleurs du Mal, rien que le nom déjà nous intrigue peu ou prou, parce que c'est un petit peu comme une oxymore. Les fleurs, par définition, ça nous évoque quelque chose de positif, quelque chose de mignon, etc. Puis le mal, c'est tout à fait l'inverse. Par ailleurs, si on veut aller dans les sous-entendus un petit peu grivois, les fleurs, la fleur, ça correspond un petit peu à l'idée qu'on se fait du sexe féminin. Et le mal, là encore, par ressemblance sonore, ne serait-ce que ça, le mal, ça évoque aussi le mal, l'élément masculin. Donc on a un petit peu l'impression d'une oxymore dans ce terme, les fleurs du mal. Et Baudelaire lui-même était un habitué de ces ambiguïtés de langage, et il savait en jouer avec talent. Alors le fleur du mal, pourtant, c'était pas le titre original de ce recueil, qui, comme je vous l'ai dit, s'est élaboré vraiment de façon assez anarchique. Et pour cause. Déjà, Baudelaire, c'était quelqu'un qui était attaché à l'oralité. Je vous disais qu'il courait les tavernes. Et c'est justement là, dans les tavernes, qu'il récitait ses poèmes. Pour lui, c'était important de les déclamer et pas seulement de les écrire. Il y en a qui préfèrent, qui sont discrets, qui préfèrent élaborer, écrire leurs trucs dans leur coin. Mais tout le monde n'est pas Fernando Pessoa. Et du coup, Baudelaire, lui, il aimait bien aller avec ses potes dans les tavernes, dans les bistrots, et du coup, déclamer ses poèmes, qui sait, pour récupérer quelques sous, pour boire une pinte supplémentaire, allez savoir. Et du coup, c'est, à mon avis, là, c'est une interprétation personnelle, à mon avis, la musicalité de sa prose et de ses vers vient sans doute en partie de ça, puisqu'il faut savoir séduire cet auditoire. Et du coup, la sensualité et la musicalité de des textes de Charles Baudelaire vient sans doute en partie de cette expérience un petit peu insolite, en tout cas qui nous paraît insolite, avec 200 ans de décalage. Et du coup, ouais, je vous disais, Les Fleurs du Mal, à la base, c'était pas vraiment une idée qu'il avait conçue, et ensuite pour laquelle il a rédigé des poèmes. Ça a été exactement l'inverse. On dit parfois que l'art, l'œuvre en tout cas en art, est plus un résultat qu'un postulat. Et c'est souvent vrai. En l'occurrence, en ce qui concerne Les Fleurs du Mal de Baudelaire, c'est la stricte vérité. Il a écrit des poèmes par-ci, par-là, qu'il avait mis dans un coin de sa chambre, dans sa poche ou quoi, et il en parlait à ses amis dans des lettres ou dans des conversations. Mais quand il a s'agit de les mettre en recueil, en fait, il s'agissait pas non plus d'en faire simplement une compilation en vrac. Et du coup, il avait un petit peu... Ça s'est fait par paliers. Il a commencé par en éditer quelques-uns dans une revue qui existait déjà à l'époque, qui s'appelait la Revue des Deux Mondes, dans laquelle il y avait des gens qui bossaient pour de vrai, hein, pas des Pénélope Fillon. Et à l'époque, donc dans la Revue des Deux Mondes, eh bien, les premiers poèmes des Fleurs du Mal ont été publiés comme ça dans la presse. La presse qui était vraiment l'internet de l'époque, hein, parce qu'il y avait énormément de titres, tout le monde lisait, tout le monde, et pas seulement dans les milieux urbains, dans les milieux ruraux aussi. Voilà, et les idées circulaient comme ça, et les poèmes de Baudelaire se sont fait connaître comme ça. Et par contre, lui... Au départ, il voulait appeler ça les fleurs maladives, en référence à une blague littéraire qu'il avait faite à sa mère quand il était ado. C'est-à-dire qu'il avait écrit des fleurs, un bouquet de fleurs, mais en fait c'était des feuillets de papier qui étaient plus ou moins façonnés à la façon des fleurs, voilà, et sur lesquels il avait écrit des poèmes. Et du coup, il avait appelé ça les fleurs maladives. Là encore, pour jouer de l'oxymore, hein, la fleur c'est quelque chose qui sent bon, qui soigne, et la maladie c'est quelque chose qui nous détruit à petit feu. Et bien voilà. Et du coup, les fleurs du mal, c'est un de ses potes qui s'appelait Hippolyte Babou, qui lui a suggéré, et Baudelaire a reconsidéré l'idée et a trouvé ça pas si mal, et ce titre, qui n'est pas de lui, s'est finalement imposé pour son œuvre maîtresse. Alors je pourrais vous donner des tas d'anecdotes, des tas d'éléments, mais on pourrait y passer la soirée. Par conséquent, je suis obligé de faire ça à gros traits, je vous prie de m'excuser. Mais un aspect important, c'est que le temps d'élaboration a été vraiment long, le temps de gestation, si j'ose cette métaphore, le temps de gestation a été très long, ça a pris une bonne dizaine d'années. Et ensuite, il y a une première édition en 1857 qui ne contenait pas tous les poèmes que nous on connaît aujourd'hui. Attention, elle contenait simplement une des poèmes qui étaient plus ou moins organisés en fonction d'un plan, parce que Baudelaire était assez casse-couille avec son éditeur, on peut le dire, hein, parce qu'il revenait toujours sur ses notes, il rédigeait les bons à tirer, par exemple, pour les imprimeurs. Ça a été vraiment un calvaire pour l'éditeur d'éditer ce bouquin-là. Ça a duré, je crois, ça a pris 2 ans, je crois, de travail et de diplomatie avec le poète un petit peu irascible. Et du coup, en 1857, paraît une première édition, où on discerne déjà un plan qui correspond, grosso modo, c'est une métaphore de la vie, c'est-à-dire qu'il y a la naissance et puis il y a la mort à la fin. Au fur et à mesure qu'on parcourt le recueil, on passe par différentes émotions de la vie jusqu'à notre décadence finale, et ce qu'on finisse totalement décati. Et cette première édition, disais-je, a eu des échos élogieux. Alors évidemment auprès des amis de Baudelaire lui-même, puisque il dédicaçait notamment son tout à l'heure, je vous lisais le poème au lecteur. Eh bien, juste avant, il y avait une épitaphe, enfin une dédicace en tout cas, à Théophile Gautier, qui était un grand auteur à succès de l'époque et qui était l'ami de Charles Baudelaire. À la lecture des Fleurs du Mal, c'est Victor Hugo aussi qui avait écrit une lettre élogieuse à Baudelaire, en lui disant qu'il fallait tenir bon face aux critiques négatives et aux procès, parce que c'était autant de, je ne me souviens plus de sa métaphore, mais c'était autant de décorations sur son plastron, autant de victoires à venir. Et faut savoir que Victor Hugo n'était déjà plus en France à l'époque, hein. Le Second Empire était installé, Napoléon III était au pouvoir, et par conséquent, Victor Hugo s'était exilé à Jersey. Mais les poèmes lui étaient parvenus jusque-là. Et par conséquent, vous imaginez bien que c'est un texte qui non seulement a traversé le temps, puisque aujourd'hui on a des tas d'Américains, d'Anglo-Saxons en règle générale, qui nous disent que c'est un livre qui les a touchés, mais à l'époque, il a aussi traversé les frontières, pour le coup. Alors je vous dis, ouais, il a eu des critiques élogieuses, et notamment dans la presse qui était liée à la justice, enfin pas à la justice impériale, mais à des institutions de l'Empire, du Second Empire. C'était notamment dans le cas de le Moniteur universel, alors un canard qui n'existe plus, mais qui était lié, qui avait quelque chose d'un caractère officiel. Par contre, dans le Figaro, qui est un journal qui lui aussi existait déjà à l'époque, il s'était fait descendre. Et bon, tout ça va assez vite et très rapidement, dès l'été 1857, il y a des procureurs qui commencent à s'intéresser un petit peu à ce texte sulfureux qui, à leurs yeux en tout cas, offensait la morale publique. Et c'est ainsi que, après l'affaire Bovary, hein, parce que vous savez qu'il y a eu plusieurs batailles artistiques et littéraires, notamment au XIXe siècle en France, il y a eu la bataille d'Hernani dans les années 1830, il y a eu le procès de Madame Bovary avec Flaubert, il y a eu les tombereaux de merde que George Sand s'est prise sur la tête parce que elle avait pris un nom de plume, un nom d'homme pour pouvoir écrire, cette Mademoiselle Dupin. Et vous voyez, il y a eu des anecdotes comme ça, et puis je vous passe celle de la fin du XIXe siècle. Le procès des Fleurs du Mal, en fait, est aussi un temps de fort de cette vie littéraire et intellectuelle du XIXe siècle en France. Pas autant que la bataille d'Hernani ou l'affaire Dreyfus plus tard, mais tout de même, ça a compté, notamment parce qu'il était question de pornographie. Tout simplement, on considérait que certains des poèmes de Baudelaire, et notamment les 6 qui ont été censurés par la justice après ce procès, étaient des œuvres pornographiques et qu'il convenait de ne pas les éditer et de les mettre à l'index. Et ça a été le cas pendant presque un siècle, puisque le jugement qui a contrecarré, qui a annulé ce procès de 1857 n'est venu qu'en 1949. Donc vous imaginez, pendant près d'un siècle, il y a 6 poèmes de Baudelaire qu'on n'a pas pu lire, ou alors sous le manteau, voilà. Et je vous disais, donc il y a eu plusieurs éditions, notamment une seconde édition en 1861, suite à ce procès. Alors évidemment, il y a eu les 6 poèmes qui ont été enlevés, que je vous lirai un jour, mais là aujourd'hui on n'aura pas le temps. Les 6 poèmes qui ont été enlevés, qui ont été retirés de l'œuvre, sur décision de justice, et notamment Baudelaire s'était pris une sacrée amende avec son éditeur. Il avait essayé de d'écrire à l'impératrice Eugénie pour avoir un rabais en quelque sorte sur la prune qui s'était prise. Je sais pas si ça avait fonctionné. Toujours est-il que il y a eu plusieurs éditions dans les années 1860, puisque après Baudelaire lui-même n'était plus vraiment maître de décisionnaire, en tout cas dans les éditions, puisqu'il avait cédé ses droits à un confrère, et par conséquent vous savez que cet homme-là avait toujours besoin d'argent. Et par conséquent, l'œuvre a fait son petit bonhomme de chemin, et il a rajouté des textes, notamment tous les tableaux parisiens, qui n'existaient pas dans la première édition et qui sont venus après. Alors vous savez que dans le plan vous avez Spleen et Idéal par exemple, vous avez les poèmes sur le vin dont je vous parlais tout à l'heure, etc., etc., et qui correspondent à différentes étapes de la vie de Baudelaire lui-même, ou à différentes observations, différents thèmes qu'il tenait à aborder, tout ça dans une certaine cohérence qu'il tenait à donner à l'œuvre, même si, je le répète, à la base c'était simplement un recueil de poèmes et divers et variés qu'il avait tenu à écrire, mais tout ça il a réussi à donner une certaine architecture. Voilà. Et par conséquent, tout ça s'est imposé non seulement dans l'histoire, dans le temps, dans la littérature, dans l'art en règle générale, dans les références aussi de chacun, puisque en première partie d'émission c'était un petit peu ce que je tenais à dévoiler, sinon à révéler, à souligner du moins, et c'est aussi des références qui ont imprégné d'autres œuvres artistiques, et c'est avec l'une d'entre elles qui me tient à cœur que je veux conclure cette émission aujourd'hui. Je le répète, un jour je vous parlerai des 6 poèmes censurés, et puis on prendra un malin plaisir à les lire tous ensemble, parce que c'est quand c'est interdit qu'on a le plus envie de le faire, hein. Nous autres Français, on est des sales gamins, et du coup on y reviendra lors d'une prochaine émission. Mais pour ce soir, j'ai envie de conclure avec un poème qui, bien qu'à mot couvert, assez abordé ce penchant sulfureux qu'avait Charles Baudelaire dans sa littérature, et souligner un petit peu à la fois les paradis artificiels, à la fois la débauche de stupre à laquelle on a envie de se livrer parfois, les deux étant peut-être en corrélation, allez donc savoir, tout cela dans une débauche de vers absolument magnifique, d'une grande sensualité, et que je propose d'écouter pour conclure. Pourquoi je propose cela? Eh bien parce que je vous parlais d'Enki Bilal tout à l'heure, un artiste que j'apprécie beaucoup, et qui lui reconnaît que le contact avec la poésie de Baudelaire avait été sa première impression par rapport à la langue française, et qu'il en a gardé un souvenir de douceur et d'extase charnelle en quelque sorte, qui résonne encore aujourd'hui, puisque quand vous entendez des artistes étrangers, faut croire que ça marche dans les traductions en anglais, hein, quand vous entendez des artistes étrangers comme Patti Smith vous parler de la poésie française du 19e siècle, c'est vraiment émouvant, quoi. Il y a quelque chose qui les a touchés, qui n'existe pas forcément en anglais, qui n'a pas forcément d'équivalent en anglais. Je dis pas que l'anglais est moins bien, je dis simplement qu'il y a des langues qui se prêtent peut-être mieux que d'autres à certaines descriptions, à certaines conceptions de la poésie. Et s'il est difficile d'écrire un haïku japonais en français, eh bien, il est un sonnet, ça passe beaucoup mieux, et notamment ceux de Charles Baudelaire, avec lesquels on va se quitter ce soir, chers amis. Par conséquent, eh bien, je vais vous réciter un poème qui me tient à cœur, je le répète, un poème le 49e du recueil Les Fleurs du Mal, de l'édition de 1861, qui s'appelle Le Poison. Le vin sait revêtir le plus sordide bouge d'un luxe miraculeux, et fait surgir plus d'un portique fabuleux dans l'or de sa vapeur rouge, comme un soleil couchant dans un ciel nébuleux. L'opium agrandit ce qui n'a pas de borne, allonge l'illimité, approfondit le temps, creuse la volupté, et de plaisirs noirs et mornes remplit l'âme au-delà de sa capacité. Tout cela ne vaut pas le poison qui découle de tes yeux verts, là où mon âme tremble et se voit à l'envers. Mes songes viennent en foule pour se désaltérer à ces gouffres amers. Tout cela ne vaut pas le terrible prodige de ta salive qui mord, qui plonge dans l'oubli mon âme sans remords, et charriant le vertige, la roule défaillante au rive de la mort. Bonne soirée, Mutilou. Bisous, salut. I wish I was mad, fucked up and done. I wish I was bad, completely wrong. I wish I was made, build up and fake. I wish I could lie and never could fail. And if
to dawn. Wish I could last as long as the gods. Wish I could be perfectly free. Wish I was a creep. Wish I made you.
Qui découle de tes yeux verts. Là que mon âme tremble et se voit à l'envers, mes songes viennent en foutre déterrer à ces gouffres amers.
But all that is not worth the prodigy of your saliva, Jill. Bites my soul. This is intense, swirls it down remorselessly.